Hey, salut Bécourt, bien dormi ou quoi? Ici c'est Armel pour Radio B. Bon, j'ai un peu la voix pétée à cause de la crève, de l'alcool ou d'avoir trop chanté hier, mais en tout cas j'ai bien la motte. On est reparti pour une petite heure d'émission. Si t'entends pas bien, n'hésite pas à monter le son, et si c'est trop fort, eh ben il y a plein d'espaces plus loin où tu peux aller te poser, alors n'hésite pas. Bisous! On vous a encore prévu plein de choses avec Maud, Marion et toutes les copines qui travaillent sur cette émission en plus de leur autre tâche dans l'organe de l'événement. On commencera avec la chronique de Maud sur la contraception, suivi des petits mots que vous nous avez laissés dans la boîte à mots. N'hésitez pas d'ailleurs à en laisser d'autres. Les éboueuses nous parleront du commerce des déchets international, puis Marc et Philippe nous parleront de la lutte au Larzac. Alors on était pas mal frustrés en montant cette émission parce que, évidemment, quand on les a fait venir pour causer de tout ça, en fait, ils sont restés à discuter plus d'une heure. Alors évidemment, bah, il a fallu qu'on fasse des coupes franches dans leur récit pour que ça tienne dans le reste du format de l'émission. Mais bon, si jamais vous voulez entendre l'interview en entier, on va la laisser sur le site de Galilée, où vous retrouverez d'ailleurs le reste des émissions de Radio B. Du coup, c'est sur galilee.eedf.fr/wp/radio-b. On terminera avec la chronique pour les 100 ans de la FFE autour aujourd'hui de la lutte sur le droit à l'avortement. Alors bien sûr, on vous a prévu plein de petites surprises au milieu de tout ça. Et tout de suite, le programme du jour.
Voilà les infos pour cette deuxième journée sur les 40 plus 1 an de Bécourt. Comme hier, toute la journée, la ludothèque est ouverte entre la Pimfoufoune Caravane et la mairie pour jouer à des jeux de société de 7 à 97 ans. L'expo est toujours installée dans le village et vous pouvez toujours, de 10h à 18h, aller tester le super escape game dans le garage, inscription sur place. Pensez aussi tout au long de la journée à faire une petite pause dans la zone « Je suis libre » qui est en dessous de la Pimfoufoune Caravane et qui est la zone où vous vous annoncez comme disponible pour filer un coup de main aux équipes d'Anga. La boulange est toujours les mains dans le pétrin et il y a toujours 3 créneaux de disponibles par fournée pour venir s'initier à la fabrication artisanale du pain. Il faut s'inscrire là aussi sur place. Philippe continue ses visites guidées du hameau à 14h30 et à 16h30 pour tout savoir sur les chantiers, les évolutions et les débuts de Bécourt. Le ciné-club continue également dans Hamad. Il y a des rendez-vous un peu toute la journée. Vous pouvez regarder ça plus précisément sur le programme qui est sur le panneau d'actu, notamment à 12h20. Il y a une projection cassette et magnéto, c'est-à-dire des films des débuts de Bécourt numérisés qui ont été montés durant ces deux dernières années. Les universités d'été des éclaireuses et éclaireurs de France continuent de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30. Vous pouvez regarder le programme complet sur le panneau d'actu, mais pour vous donner un petit aperçu, il y aura notamment un atelier sur l'influence post-coloniale sur les projets internationaux, un autre sur l'accueil des mineurs étrangers isolés dans le scoutisme, et enfin un dernier sur la réduction de l'impact environnemental de l'association du côté des branches, éduquer et agir. Dans les choses un peu spécifiques de la journée, il y a à 15h45 le grand rendez-vous à ne pas manquer. Retenez bien cet horaire, 15h45, le grand rendez-vous à ne pas manquer. A priori, selon les dernières infos, le rendez-vous serait au niveau du BS1. C'est la grande parade d'anniversaire de Bécourt, ne manquez pas ça. À 16h30, à la source, il y a de nouveau la rencontre avec la compagnie Mange sur la question de la mort et des rites funéraires. Dans les grandes nouveautés, à 18h30, on inaugure l'espace Guinguette. Donc l'espace Guinguette, c'est quand vous êtes dos à Cardabel, une des maisons les plus hautes du village. Quand vous êtes dos à Cardabel sur la droite, il y a un espace avec de l'herbe et des bancs. À 18h30, à cet endroit-là, vous avez un spectacle de la compagnie Marc Prépus avec une histoire de caddie post-apocalyptique. Ça a l'air très intriguant, à vous de voir et d'aller voir sur place. Au même endroit, à 22h30, il y aura un concert de Graioli avec de la musique tropico-localiste. Là aussi, c'est très intriguant. Je vous invite à vous rendre compte par vous-même sur place. Et à partir de minuit, le Moonlight Club réouvre pour une soirée spéciale honteusement vôtre, basée sur les suggestions les plus honteuses faites durant votre processus d'inscription aux rencontres. On vous souhaite une belle journée sur le COS et tout de suite, on passe à la programmation de Radio B. On dit que la meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit. Et toi alors, c'est quoi ta contraception ? Dans cette chronique, on se parle de contraception. De est-ce qu'on en a besoin dans nos pratiques sexuelles ? Et si oui, pourquoi on a choisi celle-là ? Pourquoi on a changé ? Comment on a changé et comment ça nous va aujourd'hui ?
Est-ce que tu peux me parler un peu de toi, ta contraception actuelle ?
Oui,
Alors, moi, depuis le mois de juin de l'année dernière, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant, j'ai une ligature des trompes, une salpingectomie bilatérale.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'est une opération qui consiste à ligaturer, donc à fermer les trompes de Fallope, de manière à éviter, enfin à arrêter en fait la descente de l'ovule au niveau de l'utérus, ce qui bloque en fait la possibilité de fécondation.
Du coup, c'est ce qu'on appelle une stérilisation à visée contraceptive.
Exactement.
Ok. Et comment t'en es venue là alors ?
Moi, j'en suis venue là parce que je ne souhaite pas avoir d'enfant, d'aucune manière que ce soit, et de manière, c'est un choix qui est définitif, je vais dire. Et donc, du coup, comme pour moi, il n'y avait pas de raison d'être sur une contraception, je vais dire temporaire, que ce soit la pilule, le stérilet ou toute autre forme, en fait, avoir une contraception qui était, je vais dire, définitive, c'est ce qui paraissait le plus logique, en fait.
T'as eu des contraceptions temporaires avant ou comment ?
Moi j'ai eu des contraceptions, je veux dire c'est un parcours assez classique où quand j'étais ado j'ai pris la pilule pendant 6 ou 7 ans je pense, quelque chose comme ça. J'avais pas de problème avec la pilule, j'ai pas eu de soucis médicaux ou quoi que ce soit, j'avais pas vraiment d'effets secondaires. Mais je voulais passer à quelque chose qui soit moins contraignant parce que bah, il faut toujours l'avoir sur soi, il faut la prendre à l'heure fixe et tout ça, gna gna gna. Et du coup je suis passée au stérilet en cuivre pendant 3 ans et au moment où il allait falloir le changer, j'ai fait en sorte de pouvoir être stérilisée à ce moment-là pour ne pas devoir refaire tout simplement une pose de stérilet.
Et a priori, c'est pas évident de trouver un professionnel ou une professionnelle de santé qui veut bien faire une stérilisation, surtout quand t'as pas eu d'enfant.
Et quand tu es jeune.
Ouais. Ouais.
Et oui, parce qu'en fait, il y a une méconnaissance de la loi. Il y a un a priori qui dit que déjà c'est interdit en France, ce qui est complètement faux. C'est une procédure qui est légale à partir du moment où tu as 18 ans, parce que tu peux disposer de ton corps comme tu le souhaites, normalement. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'opposition morale et idéologique de la part des praticiens qui refusent en fait d'effectuer une stérilisation sur les femmes qui n'ont pas d'enfants ou sur les femmes qui ont moins de 40 ans. Il y a ce mythe un peu de si t'as moins de 40 ans et que t'as pas 3 enfants, tu peux pas te faire stériliser. C'est complètement faux. C'est juste que souvent ils ignorent la loi ou juste ils y mettent leur grain de sel et du coup ils refusent de le faire. Faut savoir qu'un praticien a le droit de refuser une opération. Ils sont pas obligés de la pratiquer. Moi j'ai eu de la chance dans le parcours, c'est que j'ai pas dû essuyer de refus du tout. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Stérilisation Volontaire qui recense tous les praticiens qui acceptent de réaliser une ligature des trompes. Et du coup moi j'ai pris le premier numéro du chirurgien qui était le plus proche de chez moi, je l'ai appelé. J'ai eu un premier rendez-vous à partir duquel on lance un délai de réflexion légale de 4 mois. Mmh. Et après ces 4 mois, j'ai eu l'opération. Alors ça a été un peu plus parce que c'était la période Covid et du coup ça a été reporté, etc. Mais moi du premier coup, ça a marché quoi. Il n'y a vraiment pas eu de soucis. Ma gynécologue était très contrariée. Et quand je lui ai dit que j'allais le faire, elle m'a dit que c'était pas possible. Et puis quand je l'ai appelée pour lui dire que c'était fait, elle l'a pas très bien pris. Mais bon voilà, c'est pas son problème en fait. Mmh. Au premier coup, quand ma gynéco, elle m'a dit non, c'est pas possible. Bah oui, ça m'a mis un petit coup d'arrêt. Et il m'a fallu, je pense, quelques mois avant de me dire « Non, mais si, en fait, il y a moyen, c'est pas possible, je la crois pas. » Mais c'est aussi pas évident, parfois, de remettre en cause la parole médicale. Parce que quand il y a quelqu'un qui est en blouse blanche devant toi et qui te dit « Non », se dire « Ah, je pense que si », ça demande beaucoup de temps, d'énergie et et il faut un petit peu de force dans ses convictions pour pas se laisser abattre au premier refus, quoi. Pour moi, c'est une forme de libération parce que c'est un choix qui est défini, qui est arrêté depuis plusieurs années. Et en fait, de pouvoir le passer dans le concret, c'est aussi une forme d'aboutissement de la pensée et c'est une matérialisation du choix, en fait.
De ne pas avoir d'enfant,
voilà. Et l'avantage aussi, c'est que d'une certaine manière, j'ai fait ça avant de subir une pression sociale qui est trop forte, dans le sens où moi, j'ai pas encore 30 ans. Et du coup, on te pose un peu la question des enfants. Mais je pense que plus tu avances en âge et plus on te la pose. Et en fait, moi, le choix, il est déjà fait.
Du coup, comment ça se passe concrètement le jour J ?
Alors le jour J, c'est assez simple. Tu rentres le matin très tôt à l'hôpital. Moi, je crois que je suis rentrée à 7h30, quelque chose comme ça. Puis après, c'est une anesthésie générale qui se fait par celluloscopie. Donc c'est-à-dire qu'il y a 3 petites incisions. C'est un peu comme quand on se fait enlever
la
l'appendicite, merci, enfin l'appendice du coup. Donc du coup, ils mettent du gaz dans ton ventre pour soulever la paroi de ton ventre de manière à ce qu'ils voient un petit peu ce qu'ils font. Il y a une pince qui rentre d'un côté et une petite caméra de l'autre côté. Et puis il y a une ligature par cautérisation. Il y a plusieurs méthodes. Il y a le fait de poser des clips. Moi j'ai refusé cette méthode parce qu'il y a la possibilité qu'il migre tout simplement, et sinon il y a par cautérisation, moi c'est ce que j'ai choisi, et c'est une opération qui dure 20 minutes à peu près, et on se réveille du anesthésie générale, et à la fin de la journée, enfin même pas, il était 16h je pense quand je suis partie de l'hôpital, donc c'est vraiment en ambulatoire, ça prend à peine une journée, il y a un rétablissement qui est pas très long, au bout de 3 jours ça va quand même vachement bien, et généralement l'arrêt il est de entre 5 jours et une semaine. Moi j'ai un métier qui est très physique, du coup j'ai été arrêtée 15 jours parce que sinon c'était pas possible. Ça reste léger, je vais dire, en termes de suivi médical, tout ça, voilà, au niveau des soins, tu prends 2 antidouleurs pendant 3 jours et puis ça va quoi, là-dessus y a pas de souci. Ça tire un peu mais on s'en remet vite.
Financièrement, du coup, la ligature des trompes, est-ce que c'est pris en charge à 100% parce que c'est une hospitalisation, ou est-ce que tu as eu un reste à charge, ou sur les consultations préalables ?
Alors, les consultations préalables, elles restent à ta charge, et les dépassements d'honoraires sont à ta charge, mais c'est entièrement pris en charge par la Sécurité sociale, ce qui est d'ailleurs très paradoxal, parce que la pilule ne l'est pas forcément. Mais ça, oui, moi, j'ai déboursé juste les 2 consultations qu'il y a eu avant, et c'est tout.
Est-ce qu'au-delà de l'absence de fécondation, du coup, il y a d'autres... entre guillemets, conséquences hormonales ou fonctionnelles ?
Aucune. C'est l'avantage en fait de la ligature, c'est que comme il n'y a pas d'ablation, je veux dire, des ovaires, le cycle hormonal reste exactement le même. Moi, je continue d'avoir mes règles, tout simplement. Et il n'y a pas non plus cette ménopause précoce qu'il peut y avoir quand il y a une ablation des ovaires. Donc, moi, au niveau de ma vie personnelle sexuelle, ça n'a absolument rien changé. J'ai pas plus ou moins de douleur, j'ai pas plus ou moins de désir. Il y a aucune conséquence là-dessus.
Et du coup, est-ce que ce soit à ce moment-là ou avant dans tes précédentes contraceptions, c'est des trucs dont tu parlais avec tes partenaires ou... Ils s'en préoccupaient un peu, ou plutôt c'était toi qui amenais le sujet, enfin comment ça marchait ?
Moi j'avais ma démarche à moi, avec lesquels mes partenaires étaient, parce que je suis hétéro donc du coup la question se pose. Mes partenaires étaient ok avec cette démarche mais eux n'étaient pas forcément actifs là-dedans, c'est-à-dire que... ils n'avaient pas forcément une réflexion sur eux, leur contraception, autre, je veux dire, que le préservatif classique avec lequel tu te démarres généralement quand tu commences une relation. Bien que là, c'est en train de changer, je me rends compte de ça aussi, c'est que... À l'époque où je prenais la pilule et où j'étais ado, je vais dire, la responsabilité, elle était uniquement sur moi. C'était ma responsabilité de pas tomber enceinte. C'était pas un choix de la part de l'autre, véritablement, de faire attention à ça. Et là, maintenant, c'est vraiment un projet qui se fait, je veux dire, beaucoup plus à deux. Moi, j'ai été complètement soutenue dans cette démarche. Il a pris des jours de congé pour être avec moi pendant le rétablissement. Et il y a une réflexion de sa part sur une contraception durable aussi de son côté. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui est commun.
Et en même temps, en France, ça fait que depuis 2001 que c'est légal. Bah, ça fait 20 ans, quoi, donc c'est pas non plus si ancien que ça.
Je pense qu'il y a aussi une politique nataliste qui fait que c'est pas quelque chose qui est mis en avant. Et qu'actuellement, on pense à la contraception comme quelque chose qui permet de reporter le moment d'avoir des enfants, ou ce soit un moment propice, je veux dire, par rapport aux études, par rapport au boulot, par rapport à une situation sociale et familiale, mais c'est pas pensé comme quelque chose qui peut être un choix définitif. Je pense qu'il y a aussi, c'est aussi une question d'éducation, hein, où très clairement les femmes sont construites par la société pour avoir ou au moins s'occuper d'enfants, et du coup de remettre ça en question, c'est très compliqué.
Tous les mots que l'on se lance, les petits mots de tous les jours, on les croit sans importance, mais ce sont des mots d'amour.
Le soir, venez observer les étoiles, les papillons de nuit, les pipistrelles et les ampoules de guirlandes qui explosent sur le panneau d'affichage.
Recette de meringue française. Autant de grammes de blanc d'œuf que de sucre. Les monter en neige, au four pendant 1h30 à 100 degrés. Et on mange !
Checkez le calendrier républicain pour connaître la plante du jour. Jeudi, la réglisse. Vendredi, l'échelle. Samedi, la pastèque. Dimanche, le fenouil.
Vous n'imaginez pas tout le boulot effectué par la magnifique Brunch Team.
La panthère noire est un léopard. Si tu la regardes au soleil, tu peux voir des taches en noir plus foncées. La tenue noire est donc une tenue léopard.
Trop intéressant. Est-ce qu'on pourrait avoir un podcast pour tout réécouter ?
Ben oui, bien sûr. Tu peux réécouter tous les podcasts des émissions sur galilée.eedf.fr/wp/radio-b.
Dépose des petits mots dans la boîte de la radio. Elle est sous la giga du brunch, à côté de l'enceinte.
Tous les mots que l'on se lance, les petits mots de tous les jours, on les croit sans importance, mais ce sont des mots d'amour.
T'as envie d'apporter tes idées ?
Ta contribution ?
De rencontrer des copains et des copines d'autres régions ?
On a besoin de toi. Rejoins-nous dans les groupes nationaux.
T'as envie d'en savoir plus ? Tu te poses plein de questions.
Alors deux options.
Viens discuter avec nous, les copains du CD.
On traîne dans la prairie.
Dans le fournil.
Dans le hameau.
On sera ravis de partager un moment avec toi.
Sinon, sur le panneau d'affichage, tu peux mettre ton nom et tes coordonnées et nous prendrons contact avec toi après les 40 ans.
C'était un message du comité directeur des éclaireuses éclaireurs de France.
Vous écoutez Les Éboueuses.
La chronique des éboueuses.
Et on vous dit merci, monsieur Poubelle, pour cette géniale idée nouvelle. Et on vous dit merci, monsieur Poubelle, grâce à vous, la planète est plus belle.
Les Éboueuses, chronique numéro 2, la parfaite boucle vertueuse des déchets des riches. Vous connaissez le Global Waste Trade ? En français, l'échange international pour le traitement et le recyclage ? Si, si, vous connaissez. C'est un merveilleux concept qui consiste à envoyer les déchets des pays occidentaux vers les pays émergents. Faut se lever tôt pour appeler ça un échange, quand même. Mais il y en a qui y arrivent, et notamment Evgenia Derevyanke. Elle est avocate spécialiste des litiges concernant les transferts internationaux des déchets. Et elle défend clairement pas le bon côté. Dans ce merveilleux recueil d'insanité qu'est le JDD, Evgenia nous explique donc dans le plus grand des calmes comment ces allers-retours en cargo qui transportent nos merdes vers des pays pauvres sont nécessaires et même vertueux. Et la logique est implacable. En effet, nous dit-elle, la majeure partie des produits que nous consommons viennent de Chine et d'Asie du Sud-Est, y compris leurs emballages. Il est donc logique que les déchets de produits et d'emballages soient renvoyés dans ces pays. Là-bas, ils les transforment ensuite en matières premières pour réalimenter la production. Bim ! Cercle vertueux. À l'aller, les bateaux sont chargés d'objets produits en Asie et au retour, les déchets prennent leur place. Evgenia est sans appel. C'est une boucle parfaitement circulaire. Eh ben Evgenia, faut quand même vraiment pas avoir trop peur de l'enfer pour lâcher des trucs pareils. L'Occident utilise sciemment l'Asie comme une poubelle et c'est ok, logique et vertueux. Et t'arrives à nous dire ça sans transpirer. Je te refais le dessin parce que t'as pas l'air de comprendre. Nos entreprises délocalisent leur production pour payer des salariés une misère, pour créer des trucs inutiles qu'on consomme boulimiquement. Mais c'est logique de leur envoyer les emballages sans un petit mot de remerciement. Et on ne parle même pas de tout ce que ça engendre sur place. Des mafias qui s'enrichissent sur ce business, mais qui ne traitent pas réellement les déchets, les trafics en tout genre, les montagnes de déchets à l'air libre, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, les maladies respiratoires, les cancers liés aux inhalations. Tout ça, Evgenia, pour toi, c'est du détail ? Vraiment ? C'est qu'il est plus que temps d'enlever tes immondes lunettes capitalistes. Il y a forcément un petit bout de conscience en toi qui sait que, en plus de polluer et de faire des pays émergents nos larbins, eh ben ça tue des gens. Mais Evgenia, aujourd'hui, elle est chafouin. Elle est chafouin parce que depuis 2018, eh ben son petit business, il marche moins bien. Parce que en 2018, la Chine nous a mis un petit stop. Depuis 1992, la Chine traitait la moitié des déchets mondiaux. Mais depuis quelque temps, on l'aura constaté, la Chine, elle pèse un peu dans le game. Et surprise, ils ont décidé de ne plus traiter les 24 types de déchets les plus toxiques et difficiles à recycler. Normal. Et c'est là où Evgenia et l'échafouin. Parce qu'à cause de la méchante Chine, qui ne veut plus être notre poubelle, eh ben on est obligé d'envoyer nos merdes en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines, et bien sûr sur tout le continent africain. Des pays qui sont encore moins prêts que ne l'était la Chine à recevoir cette déferlante et qui ont encore moins la capacité de les gérer. Ça enraye un petit peu le merveilleux système vertueux. Ou disons du moins que c'est d'autant plus flagrant qu'il n'y a absolument rien de vertueux dans cet infâme fonctionnement. Conclusion incroyable de cette chronique, il vaut mieux être un pays qui pèse économiquement. Quelle surprise! Deuxième conclusion, les capitalistes sont vraiment prêts à dire et à penser n'importe quoi pour se persuader que leur système fonctionne.
Bécourt, 40 plus 1, les coulisses.
Bécourt,
40 plus 1,
Bécourt,
les coulisses.
Bécourt, 40 plus 1, les coulisses.
Bécourt, 40 plus 1,
les coulisses. Bécourt,
40 plus 1, les coulisses.
Bécourt, 40 plus 1, les coulisses.
Bécourt, 41 plus 1, les coulisses.
Non, c'est 40 plus 1.
41 plus 1, oui, ça fait 42, donc ouais. Ça marche pas.
Non.
Mais je peux refaire.
Ouais.
Du coup, je refais là maintenant tout de suite.
Ouais.
Ok. Bécourt, 40 plus 1, les coulisses.
Partir à l'étranger, découvrir des pratiques culturelles différentes, faire des choses ensemble, c'est chouette. On remet en cause ses préjugés, on devient plus ouvert, plus solidaire. Mais en fait, ça permet pas de garantir une réelle réciprocité. Les rapports postcoloniaux ont la vie dure. Et on a besoin de toi pour mettre en lumière tous les aspects de ces rapports et les démonter dans nos projets. Alors, rendez-vous samedi de 10h à midi et de 13h30 à 15h30 aux universités d'été.
Je suis fille de marin qui traverse la mer. Je suis fille de forçat qui déteste la guerre. Je suis fille de forçat, criminel et évadé. Et fille du roi, trop pauvre à marier. Fille de coureur des bois et de contrebandière. Enfant des sept nations et fille d'aventurière. Métissée sans mêlée, bien qu'on me l'ait caché. C'est un sujet de honte, j'en ferai ma fierté. C'est un sujet de honte, j'en ferai ma fierté. La 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 la. Même le jour où ils ont passé la conscription, je suis une paysanne et fille d'ouvrière. Je ne prends pas les armes contre d'autres en galère. Je ne prends pas les armes contre d'autres en galère. La 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 la. De mourir au loin pour la nation, une nation qui ne fut jamais vraiment la mienne, une alliance forcée de misère et de peine, celle du génocide des premières nations, celle de l'esclavage et des déportations, celle de l'esclavage et des déportations. La 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 la. Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître. Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître. La 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 la. La 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 maître. Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître. Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître.
Ouais, ouais, Radio B.
Donc on est avec Marc et Philippe, merci d'être venus, et on va parler avec vous de la lutte du Larzac et aussi des liens que ça a pu faire pour vous qui y avez un peu participé, si on a bien compris, avec les débuts de Bécourt. Du coup, ma première question, c'est, vous êtes de Mio, vous êtes du groupe de Mio tous les deux, c'est ça?
Ouais, ouais.
Ouais, ouais.
Et vous étiez Respo et...
Si tu veux, ce que je peux raconter, c'est comment je suis rentré dans le scoutisme. Sur Mio, il n'existait pas de groupe éclaireur de France à cette époque-là, tout au moins la branche éclaireur. Mes parents, qui étaient plutôt d'origine catholique, ont essayé de m'inscrire sur les scouts, il n'y avait pas de place. Donc ils ont été voir le pasteur et ils m'ont inscrit aux éclaireurs unionistes, où j'ai retrouvé Marc.
Et parce que moi, par contre, donc, j'ai commencé très tôt, j'avais 6 ans, 7 ans, et j'étais louveteau unioniste.
Alors, et du coup, donc, vous êtes de Mio, donc vous n'étiez pas très loin du plateau du Larzac. Est-ce que vous y avez pris une part à cette lutte-là?
Donc en réalité, si tu veux, la lutte du Larzac a démarré plus par les gens de Millau que par les paysans. C'est quelque chose qui est assez inconnu. Justement, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. C'est qu'en réalité, les premières manifestations et tout ça, il n'y avait pas de paysans.
Alors en fait, en 71, il y a le secrétaire d'État à la Défense qui s'appelait Fanton, qui a déclaré que le camp militaire du Larzac allait être porté de 3000 hectares à 17000 hectares pour les besoins d'entraînement des troupes, et notamment tirs d'artillerie, enfin, etc. Parce que grand espace, et voilà. Et en fait, tout le monde a appris, notamment les paysans du Larzac, ils ont appris à la télé, en regardant la télé, qu'ils allaient être expulsés, probablement, vu que pour étendre le camp de 3000 à 17000 hectares, ça passait par chez eux, quoi. Donc, et en fait, tout le monde a appris ça, mais comme ça, par la télé, sans aucune préparation, sans qu'il y ait un débat public avant. Et les paysans, sur le coup, ils n'ont pas réagi. C'était des gens qui étaient catholiques, qui allaient à la messe le dimanche, qui ne travaillaient pas le dimanche parce qu'il fallait aller à la messe. C'était des gens qui étaient... très respectueux du pouvoir en place. C'était des gens qui étaient à droite et qui ne pensaient pas une seconde devenir des contestataires, quoi. Et nous, les jeunes de Millau, on était plein de jeunes à Millau qui, d'emblée, on a dit non, c'est pas possible, non au camp. Ça a été notre slogan.
Et nous,
qu'on a brandi dès le lendemain de cette annonce. Et on était traités de provocateurs par les paysans eux-mêmes, qui disaient, attendez, c'est pas vous qui êtes concernés, c'est nous. Or, nous, et entre autres nous en tant qu'éclés aussi, le Larzac, c'était notre terrain de jeu. Et ça passait pas. En plus, moi, de mon éducation protestante que j'avais rejetée, contesté complètement, faisait de moi en même temps un pacifiste et un antimilitariste. Donc l'annonce d'extension du camp militaire, ça a été quelque chose qui m'a mobilisé, mais tout de suite, quoi. Et le groupe de Millau a suivi contre l'extension du camp militaire. On nous prive de l'endroit où on est heureux, quoi.
Le Larzac est arrivé que dans un brouhaha général. Il faisait partie d'un élément d'un brouhaha général. Et donc, sur Millau, si tu veux, sous l'influence des Mao, donc de Marc et compagnie, ils ont créé un regroupement politique sous un nom qui était un nom national des Mao, qui s'appelait le Secours Rouge, et qui, en réalité, sur Millau, est devenu une espèce d'assemblée de tous les gens de gauche, c'est-à-dire la gauche du PS... Le PSU, qui à l'époque était un parti, comment le situer maintenant, disons que un petit peu, si on peut le comparer syndicalement, à Sud, tu vois, un truc où il y a du mouvement, quoi. Il y avait des chrétiens de gauche, il y avait tout ça, qui sont regroupés dans ce truc, un peu à l'initiative des Mao, c'était rigolo, mais ces Mao-là, à cette époque, c'était des Mao de Mio, c'était Marx, c'était des gens comme ça. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés dans ces réunions, et c'est là où, en quelque sorte, on a préparé le Larzac. C'est que, à ce moment-là, il y avait, au bout du Larzac, il y avait l'armée qui faisait des essais dans un tunnel de l'ancienne voie de chemin de fer qui traversait le Larzac. Ils faisaient des essais d'explosifs. Et donc, il y avait quelqu'un qui était au PSU qui s'appelait Robert Siméon, qui était à ce moment-là, qui a été un peu berger sur le Larzac, qui est un ancien typographe parisien, etc., etc., et qui depuis habite à Millau depuis. Qui était le représentant du MDPL, MCAA, voilà. Donc contre l'armement atomique et tout ça. Et disons, ça nous a servi de couverture pour entamer le démarrage de l'affaire du Larzac. C'est-à-dire la première manifestation de Larzac qui a eu lieu entre la ferme de l'hôpital et la cavalerie. Ça a été la couverture, ça a été le MDPL, l'MCA.
C'est ça, oui.
Donc en fait, ce groupe-là, c'était à la fois un endroit où vous vous réunissiez déjà avant l'annonce de l'explosion et qui vous a servi ensuite à enclencher le début de la mobilisation.
Voilà. Disons qu'on a été d'autant plus réactifs qu'on était déjà prémobilisés sur le thème de l'antimilitarisme, de l'opposition. Au nucléaire, en fait.
Et puis l'opposition, surtout au pouvoir, qui était encore un pouvoir, c'était encore, si tu veux, après 68, le gaullisme a continué, avec un tout petit peu de Gaulle l'année d'après, et puis ensuite Pompidou derrière.
Okay.
Le démarrage de la lutte du Larzac a aggloméré pratiquement toute la ville à un moment où la municipalité était gaulliste. Et donc à ce moment-là, si tu veux, il s'est créé toute une ébullition qui regroupait bien plus que des gens politiques, qui regroupait toute la population finalement contre ce truc qui arrivait et qui allait prendre le terrain où le dimanche les gens allaient ramasser les champignons, des oreillettes, le pleurote du panico. C'était une institution sur Millau. Donc Bon, la municipalité, évidemment, a été prise en porte-à-faux, ça hurlait de partout. L'État a décidé ce projet d'extension du camp, ils se sont basés sur des études qui dataient de plus de 10 ans.
Et en termes de fréquentation du Larzac, c'est ça, en termes de qui était dessus.
Qui était dessus. Sauf qu'entre-temps, il y avait eu un changement complet de génération. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des jeunes qui avaient repris l'exploitation de leurs parents, donc des locaux, et d'autres jeunes, certaines de la région, d'autres qui venaient d'ailleurs, qui avaient entre autres fait l'école des bergers de Fontainebleau et qui s'étaient installés et tout ça. Et il y avait aussi d'autres gens. Il y avait un ancien militaire, Tarlier, qui avait acheté une grosse propriété et qui essayait de faire de l'agriculture plus industrielle que ce que faisaient les autres.
Et qui, lui, était un rapatrié, je pense,
oui,
d'Algérie.
Qui venait du Congo, qui avait été capitaine dans l'armée, etc., etc. Alors, si tu veux, donc la lutte du Larzac s'est lancée, si tu veux, le mythe Larzac s'est lancé sur un agglomérat qui était complètement
hétéroclite.
Tu retrouvais des cathos, l'évêque de Rodez s'était prononcé contre l'extension du camp, dont les curés étaient contre, il y avait des curés dans la lutte, il y avait l'extrême-gauche qui était, tout ça était dans un même, les paysans et tout ça était dans un agglomérat, et c'est ce qui a fait finalement le... A posteriori, on peut dire le résultat de la lutte. Ça crée une espèce de mythe qui s'est étendu en France à une époque où la presse officielle était complètement contrôlée par l'État, donc ne parlait absolument pas de ça, où les journaux régionaux n'en parlaient absolument pas, personne n'en parlait, mais par contre, dans tout le monde underground, tout ça s'est diffusé donc, par l'intermédiaire de tous ces mouvements.
Et en fait, ce qui a été très important, justement, ça a été la création des comités Larzac. Voilà. Dans toutes les villes, les villes, même petites, se sont créés des comités Larzac en soutien à la lutte et qui rassemblaient des gens de tous horizons politiques et intellectuels ou non, voilà. et de pensées diverses, etc. Et l'action des comités Larzac a été très déterminante parce que ça a répandu vraiment ce feu qu'il y avait autour de l'extension partout en France.
Et alors du coup, c'est une mobilisation, c'est une lutte qui dure 10 ans en gros. Vous avez vécu, vous avez grandi pendant ce temps-là. Est-ce que ça a eu une influence sur vous ? Qu'est-ce que ça a changé dans vos pratiques, vos réflexions, votre vie ? Est-ce que ça a changé des choses ?
Oui, bien sûr. Mais ça veut dire, si tu veux, que c'était quelque chose... J'ai été pendant 10 ans au comité de mis à voix de défense du Larzac. Alors, il s'appelait comité mis à voix de défense du Larzac parce qu'il se comptait comme partie prenante de la lutte. C'est-à-dire, ce n'était pas un comité Larzac, comme dit Marc, qui était des comités de soutien. Nous, sur Millau, on estimait qu'on faisait partie de cette lutte et que c'était notre territoire au même titre que les paysans, mais pas en dessous. Et donc... ça a été longtemps une bagarre pour essayer de nous imposer face à eux, d'être reconnus comme...
Par intégrante
de la lutte, ce qu'eux ne voulaient pas, parce qu'eux, ils avaient bien conscience de ce mythe. Parce que je parlais tout à l'heure de Tarlier, cet ancien militaire qui a été un peu un stratège de la lutte des paysans. Lui, il avait un sens politique, il avait tout ça. Donc, il a posé un cadre qu'il a essayé de faire le plus large possible et tout ça, justement pour intégrer toutes ces ambiguïtés. Et donc, eux, ils voulaient maîtriser tout ça pour contrôler, avec cette idée de partir aussi sur non-violence, alors qu'il y avait beaucoup d'éléments dans la lutte qui n'étaient pas spécialement des non-violents. Il faut voir qu'à cette époque-là, il y a eu des explosifs, il y a eu des trucs qui ont sauté. T'es à côté de Bécourt, le viaduc de Vézouillac, qui est un autre hameau de la commune de Verrières, où il y avait un viaduc. Les Mao ont fait sauter le viaduc. Tu vois, il y avait des explosions un peu partout. Et dans les deux camps, il y a une famille de paysans du Larzac, les Guiraud, à la Blaquière. Leur maison, ils avaient 7 enfants et il y a des partisans du camp qui ont foutu une bombe et toute la famille a failli mourir. Donc c'était pas que non violent. Mais par contre, les paysans, pour agglomérer le maximum de monde, pour avoir l'église derrière eux, pour avoir tout le monde, se sont lancés dans cette idée de non-violence et ont créé ce mythe des paysans du Larzac qui est devenu un truc extraordinaire quoi et qui reste maintenant l'image d'une lutte incroyable mais qui était vraie aussi qui était une réalité.
C'était devenu le support essentiel. Il y a eu évidemment des blessés dans des manifs, il y a eu beaucoup de gens qui ont été réprimés, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et puis aussi ce qu'il faut dire, c'est que peut-être après dans l'évolution qu'il y a eu, et tous les recours ont été utilisés. Et quand on est arrivé en 80, alors là peut-être je résume un peu vite, mais pour fixer un peu l'évolution de la chose, quand on est arrivé en 81 avec l'élection de Mitterrand qui avait mis dans son programme, bien qu'il se soit fait molester lors d'une manifestation sur le Larzac, il avait mis dans son programme que s'il était élu, le projet d'extension serait annulé du jour au lendemain, ce qui a été le cas. En 81, il faut se dire un truc, c'est que les paysans et tout l'arsenal juridique qui avait été développé pour les aider étaient arrivés un peu au bout de toutes les procédures possibles et que si Mitterrand n'était pas passé en 81, je ne pense pas que ça aurait tenu le coup.
On n'en pouvait plus.
On était au bout de la lutte. Et franchement, là, on peut tirer le chapeau à Mitterrand pour ça, parce que ça, il l'a réussi.
Après l'élection, on a eu toute une période là où est-ce qu'il va respecter, est-ce qu'il va pas respecter, où on était tous... on était bien contents qu'il passe, parce que la gauche n'avait pas été au pouvoir depuis une éternité. Mais de l'autre côté, on avait cette angoisse qu'il ne tienne pas cette promesse.
quand pas vous vouliez pas Bastille, la grande reste encore. Vous vouliez pas Bastille, la grande reste encore. Vous vouliez Arderra, c'est quand tu détardes. Vous vouliez Arderra, c'est quand tu détardes. C'est sa bièce, comme le riz ou fasier un veg. Aïe maman, c'est sa bièce, comme les Jessy souris quand pas. Si souré qu'un pas, si souhaitera, faire un pas chalou chaplé. Si souhaitera, faire un pas chalou chaplé. Aïe maman, c'est sa pièce, tout mon nourri ou fasé un fait. Aïe maman, c'est sa pièce, tout mon lit, si souré qu'un pas. Les messages passent, Amanda l'armada. Les messages passent, Amanda l'armada. Aïe maman, c'est sa pièce, tout mon nourri ou fasé un fait. Aïe maman, c'est sa pièce. Les cris d'une coustarde et l'autre et les grenades. Les cris d'une coustarde et l'autre et les grenades. Les dînes la foulaise, y'a des plouques et la tour. Les dînes la foulaise, t'as pas tombé à l'eau fraisé. Aïe maman, oublie d'aime pas, l'ou nous d'en pas, on est rémi fraisé. Aïe maman, oublie d'aime pas, l'ou nous d'une jouve sacrifica.
T'as le look, coco. Coco, t'as le look. T'as le look, Coco.
T'as le look qui te colle à la peau.
Feu sur le quartier général.
Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau.
Ok, donc j'ai un haut un peu moulant avec les manches longues. C'est des léopards en fait qui ont des taches rouges un peu. Et du coup, il y a plein de léopards et entre les léopards, il y a des motifs léopards. Dans les cheveux, j'ai une écharpe assez fine qui est grise avec des motifs léopards aussi que j'ai mis en espèce de turban. Enfin voilà, il y a plein de façons. J'adore les écharpes parce qu'en fait, ça fait des accessoires qu'on peut utiliser de plein de manières. Sûrement, cette écharpe, elle va me servir de soutien-gorge aussi dans la soirée. Voilà. C'est drôle parce que pour l'événement, j'ai cherché du coup plein d'habits. Et ces habits, je les ai trouvés au même endroit, dans une friperie, dans un lieu collectif qui est une ancienne usine de ciment Lafarge, dans lequel il y a eu un vide-grenier avec une fête comme tous les ans. Ça s'appelle l'île de l'Exos, un peu en référence à l'île de la Tortue. Et voilà, c'est à l'Exos, donc. C'est un petit village entre le Tarn-et-Garonne et le Tarn, avec l'Aveyron qui coule au pied. Et c'est un lieu très underground, j'adore. Et du coup, il y a aussi une friperie, un espèce de vide-grenier à prix libre. Et donc, je les ai achetés là-bas. La ceinture aussi, d'ailleurs. Parce que j'ai une ceinture en plastique rose avec des petites écailles en fer dessus. Et voilà.
Qui est magnifique.
Et du coup, j'ai aussi d'autres costumes à la tente, mais c'est plus des costumes de soirée en mode Vampirella, Cruella, trucs comme ça, voilà.
D'accord. Du coup, plutôt pour plus tard dans la nuit, quoi.
Voilà, pour le dance floor, voilà.
Ok. Et ben merci. Merci.
T'as le look qui te colle à la peau.
Dimbali c'est aujourd'hui et pour demain.
Dimbali c'est aujourd'hui et de demain.
Eh hey, mais c'est quoi cette chanson?
Ça, mais tu connais pas, c'est la Dimbalade, le chant de Dimbali, le dernier grand rassemblement des éclés.
Ah bon, mais c'était quand ça?
2008.
Ouah, ça date. Mais c'est quand le prochain?
Le prochain? Bah, c'est le grand bivouac. Au programme, itinérance, autonomie des jeunes, technique de camp, transition écologique et scoutisme pour toutes et tous.
Ouah, ça donne trop envie! Mais c'est quand ?
Bon, bah, ça démarre en 2022 et le grand rassemblement est prévu à l'horizon 2023-2024.
Mais pour le construire, on a besoin de toi.
Et toi aussi là-bas qui est en train de manger tes œufs brouillés.
Et de toi qui bois ton café.
Et de toi qui est en train de te réveiller.
Et aussi de vous tous qui nous écoutez.
Rejoins vite notre équipe ultra motivée.
Toutes les infos sur les panneaux d'affichage de Bécourt.
Bécourt, 40 plus 1, les coulisses.
Bécourt, 40 plus 1,
Bécourt,
les coulisses.
Bécourt, 40 plus 1, et les coulisses.
Bécourt, 40 plus 1,
les coulisses.
Bécourt, 40 plus 1, les coulisses.
Bécourt, 40 plus 1, les coulisses.
Moi, je pense que tu peux faire une émission en continu sur l'équipe brunch.
Et après, qui est retransmise pendant le brunch. On parle que du brunch.
Voilà d'où ça vient, les coulisses.
Mais moi, de toute façon, à chaque fois que je parle d'événement, je fais « Non, mais attendez, à la fin août, je fais un brunch, ça va être génial et tout. » Ah oui, c'est les 40 ans de Bécourt. Ça vient toujours en second plan. Enfin, en troisième plan, après le stand-up, évidemment. Mon grand
le bar à
Et c'est quoi un œuf parfait ?
Alors, un œuf parfait, c'est un œuf cuit à 60 degrés pendant 60 minutes.
À peu près.
Ce qui fait que la texture du blanc est parfaite. C'est-à-dire que c'est entre... entre l'œuf à la coque et l'œuf dur, c'est vraiment une texture
dans tous les restaurants gastronomiques
attestée. Je sais plus l'heure, mais attestée.
Et depuis, j'ai appris plein de choses sur les œufs parce que moi, du coup, j'ai
oui,
sujet.
Camille a
fait. Et bien, par exemple, tu mets. Non, mais ça, on peut le faire en vrai. On peut le faire. Tu mets dans un tupperware, par exemple, pour l'omelette. Tu vois, on se dit, on aimerait bien faire une omelette, mais un peu parfumée. Tu mets dans un gros tupperware tous les œufs que tu veux faire pour l'omelette pendant 24 heures avec, par exemple, verveine.
Ah,
ça parfume l'œuf cru. Tu mets l'œuf cru, ça parfume.
Mais
en fait,
on va le
faire. Fermé dans la coquille.
Mais on va le faire.
Fermé dans la coquille.
Parce que c'est pour
mais oui,
et par exemple, c'est comme ça qu'ils font les omelettes à la truffe en fait. Ils mettent pas de truffe dans le truc, ils mettent les œufs avec la truffe dans le truc et à la fin,
après,
ils font trois copeaux pour la déco quoi. Mais ce qui est infuse et même ils disent qu'il faut pas trop en mettre parce que c'est trop fort quoi.
Ouais. Mais donc, on va faire trois goûts différents. Trois jours, trois goûts.
Truffe. Eh ben oui.
Alors, non, comment dire pour... Tu veux qu'on ait un budget pour le brunch?
Parlons-en, c'est abondant.
Il y a pas de truffe à Bécourt. Eh ben, tu vas la chercher.
Il y a des chaînes de truffiers ici.
Mais il y a des louveteaux qui ont trouvé des truffes à Bécourt.
Oui.
Mais sur les SOO de Midi Pirate, là, juste après, mais des louveteaux ont trouvé des truffes.
Et alors, faut chercher ces louveteaux.
Les éclaireuses ont 100 ans. Dans cette chronique, on balaye le siècle écoulé depuis la naissance des éclaireuses pour faire un focus sur des thématiques et quelques figures de femmes. Aujourd'hui, la lutte pour le droit à l'avortement. On résume parfois la légalisation de l'avortement au vote de la loi portée par Simone Veil en 1974-1975. En fait, comme toutes les victoires sociales, c'est le résultat d'une longue lutte. En l'occurrence, une lutte menée sur plusieurs fronts, juridiques, médiatiques, mais aussi avec des actions de désobéissance civile. Pour situer le contexte, depuis 1920, il y a une loi qui interdit en France l'avortement et ce qu'on appelle la propagande anticonceptionnelle, c'est-à-dire globalement le fait de parler de contraception. C'est interdit. Donc toute pratique et information sur la contraception et l'avortement sont interdits, punis de prison. Alors pendant ce temps-là, comment faisaient les femmes ? Évidemment, en fait, elles avortaient quand même. C'est pas parce que c'était interdit qu'elle le faisait pas, simplement c'était des avortements clandestins, avec toutes sortes de procédés différents qui étaient particulièrement dangereux, ce qui amenait globalement pas mal de femmes à l'hôpital en urgence, dans des situations... À côté de ça, il y avait des avorteuses qui manipulaient de manière un peu plus expérimentée des sondes pour avorter des femmes de manière clandestine. Évidemment, comme c'était une pratique officieuse, interdite, illégale, c'est difficile de savoir combien de personnes ça concernait, mais globalement, il y a des statistiques qui estiment qu'en 1956, donc quand même 10 ans après la guerre, on évalue à 800 000 le nombre d'avortements en France chaque année, d'avortements clandestins. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui en France, on est autour de 230 000 avortements chaque année. Et à l'époque, donc 800 000 et autour de 10 000 le nombre de morts consécutives à des avortements clandestins. Alors donc cette première période là, c'est celle des avortements clandestins, c'est-à-dire avant la légalisation. Et là, on a le profil d'une éclaireuse qui s'appelle Eliette Bess, qui a pratiqué des avortements clandestins pour autrui. Donc Eliette Bess, elle est née en 1930, avant la guerre. Elle a été éclaireuse israélite au sein de la Fédération française des éclaireuses. Donc après l'arrestation et la déportation de son père, qui était juif, elle déménage et elle continue le scoutisme, mais là, elle devient éclaireuse neutre, puisqu'évidemment, le scoutisme israélite devient interdit. Donc elle est éclaireuse neutre, elle devient ensuite cheftaine de louveteau à la fin de la guerre. Et puis après ça, elle s'engage dans des mouvements indépendants des auberges de jeunesse et elle s'implique progressivement dans différents groupes et collectifs anarchistes. C'est sur cette période-là, entre 1950 et 1970, donc pendant plus de 20 ans, qu'elle apprend à pratiquer des avortements et qu'elle avorte d'autres femmes. Elle s'arrête dans les années 70 quand arrive un cadre collectif pour pratiquer des avortements clandestins dont on va reparler après et qui s'appelle le MLAC. Juste pour finir sur Eliette Bess, donc elle est un peu connue aussi parce que plus tard, dans les années 80, elle fera partie du groupe terroriste Action Directe, où elle a des missions logistiques et d'agent de liaison, et elle fera de la prison pour ça plusieurs années. Et elle est toujours vivante d'ailleurs, elle tient une librairie à Paris qui s'appelle Le Jargon Libre. Donc, revenons à la lutte pour l'avortement, le MLAC. Le MLAC, c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. C'est une association qui est créée en 73. Ça regroupe des militants de plusieurs structures différentes qui existent à l'époque, mais qui a comme particularité de se donner comme principal moyen d'action le fait de pratiquer des avortements clandestins au grand jour, c'est-à-dire ouvertement, de ne pas se cacher, alors que c'est illégal et que ça vaut encore des peines de prison, avec l'idée que si on pratique publiquement des avortements, on va finir par forcer la loi à changer. C'est facilité par l'introduction en France de ce qu'on appelle la méthode Karman. La méthode Karman, on l'appelle aussi la méthode par aspiration. À partir de 72, elle arrive en France et c'est une technique qui consiste à aspirer le contenu de l'utérus, qui est encore une technique qui est utilisée aujourd'hui, et qui est une technique qui est beaucoup plus facile et sécurisante que les techniques avec des aiguilles à tricoter ou des sondes qu'il y avait avant. Et du coup, ça permet beaucoup plus facilement à des non-médecins, donc à des personnes qui sont instites, enseignantes, militantes, etc., de pratiquer des avortements à domicile. Le MLAC, il organise aussi des départs publics pour les Pays-Bas. Ils organisent des grands bus dans des grandes places à Paris. Et à l'été 74, il organise même un Tour de France dans une caravane. Donc c'est vraiment une stratégie de publicisation de l'avortement clandestin pour faire changer la loi. Une des grandes figures du MLAC, c'est Simone If. Alors Simone If, c'est aussi une éclaireuse. Elle était éclaireuse unioniste vers Vabre, donc dans le Tarn, pas très loin d'ici. Et elle entre au planning familial et elle commence comme hôtesse d'accueil, sachant qu'à l'époque, le planning, à ce moment-là, défend la contraception, mais plutôt est contre l'avortement. Mais en fait, elle va participer en interne à une sorte de fronde des hôtesses d'accueil qui vont finir par prendre le pouvoir dans l'association. Et ça devient la première présidente du mouvement du planning familial à ne pas être un médecin. Simone If, elle est au planning familial et en fait, comme le planning familial est contre l'avortement, elle veut faire changer la position du planning familial et donc elle s'implique dans le MLAC, elle est vice-présidente du MLAC et elle va en parallèle contribuer à l'élaboration et à la création du manifeste des 343. Le manifeste des 343, vous en avez sans doute entendu parler sous un autre nom qui est le manifeste des 343 salopes. Alors en fait, c'est pas son réel nom. 343 salopes, ça a été rajouté par le journal Charlie Hebdo. Donc le manifeste des 343, c'est plutôt le volet médiatique de la lutte. En fait, c'est une pétition qui est parue en avril 71 dans le Nouvel Obs, où il y a 343 femmes qui appellent à la légalisation de l'avortement en disant « je me suis fait avorter ». Donc parmi ces 343 signataires, on compte au moins deux anciennes éclaireuses. La première, c'est Agnès Varda. Alors Agnès Varda, c'est une cinéaste emblématique de la Nouvelle Vague. Elle était éclaireuse unioniste aussi vers 7. Et elle réalise d'ailleurs plusieurs films féministes comme le film L'une chante et l'autre pas, qui est justement sur le droit à l'avortement. Elle a aussi prêté sa maison pour des avortements clandestins. Donc ça, c'est Agnès Varda. La deuxième signataire dont on sait qu'elle a été éclaireuse, c'est Marceline Loridan-Ivins. Donc elle est aussi cinéaste, elle est aussi actrice et elle réalise des films. Elle est d'une famille juive immigrée en France un peu avant la guerre. Elle a été petite zèle, donc on dirait louvette aujourd'hui, à la FFE, mais on ne sait pas dans quelle section. Elle est déportée à Auschwitz comme juive pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est là notamment qu'elle rencontre Simone Veil. En fait, elles sont compagnes de déportation et elles sont toutes les deux rescapées du camp d'extermination d'Auschwitz. Elle, son œuvre de cinéaste, pour vous situer un petit peu, elle s'intéresse vraiment à la question des peuples en lutte. Donc, par exemple, elle va filmer les Algériens et les Algériennes après l'indépendance. Elle va filmer la guerre du Vietnam du côté des Vietnamiens et des Vietnamiennes. Donc, toutes ces deux femmes-là, Agnès Varda et Marceline Loridan-Evans, elles sont signataires de ce manifeste des 343. Donc, toutes ces actions militantes combinées, elles créent en fait une situation intenable dans les années 70 pour le gouvernement. Et le gouvernement finit par avoir pas d'autre choix que d'envisager la légalisation de l'IVG. Ce qui nous amène pour le coup à Simone Veil. Simone Veil, elle aussi, elle est éclaireuse. Donc, elle était éclaireuse neutre, donc laïque. Sa famille, elle est juive, ils vivent à Nice. Tous ses frères et sœurs font du scoutisme. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, elle est déportée à Auschwitz, elle en revient. Après la guerre, elle devient magistrate. Et en 1974, elle est nommée ministre de la Santé dans le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. Quand elle arrive, on lui explique que la situation est telle que si ça continue, c'est probable que le MLAC finisse par organiser un avortement dans son bureau ministériel. C'est-à-dire que l'État doit réagir parce que la loi est trop transgressée et trop ouvertement. Donc Valéry Giscard d'Estaing la charge de porter cette loi de légalisation de l'IVG, qui en fait est une loi pour rétablir l'ordre républicain. D'ailleurs, elle-même, elle a une position qui est très nuancée sur l'avortement, et elle dit « notre loi n'interdit plus l'avortement, mais elle ne crée aucun droit à l'avortement ». Donc on est un peu éloigné de positions féministes militantes. D'ailleurs, la loi de Simone Veil autorise l'avortement pour 5 ans seulement, et donc ça a été prolongé ensuite, et à ce moment-là, l'avortement est non remboursé par la Sécurité sociale, ça n'arrivera que plus tard, en 1982. Ce qu'il faut retenir de tout ça, en tout cas à mon avis, c'est que les droits sociaux, ça se conquiert, on se bat pour, et que s'il a fallu à Simone Veil beaucoup de courage et de dignité pour défendre la loi qui légalise l'IVG en France, c'est pas à elle qu'on doit le droit à l'avortement, ni à Valérie Giscard d'Estaing, on le doit aux militants et aux militantes qui se sont battus, chacune avec leur technique, pendant des années avant ça.
T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. T'as le look, Coco.
T'as le look qui te colle à la peau.
Feu sur le quartier général.
Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau.
Oui, donc j'ai récupéré un peignoir. C'est pas un peignoir, en fait, c'est un kimono japonais. En simili soie que j'aime vraiment vraiment beaucoup. On me l'a offert, mais ça vient de loin. C'est un échange en fait. J'ai le cousin de ma chérie qui est un peu un freaks brother et en fait j'ai récupéré quelque part un chihuahua empaillé et en fait j'ai pensé que ça lui ferait très plaisir et du coup je lui ai offert ce chihuahua empaillé. Et du coup, en effet, ça lui a fait très très plaisir. Et en échange, moi j'avais rien demandé, il m'a offert ce magnifique peignoir kimono que j'adore. Et en fait, un chihuahua empaillé, c'est pas forcément commun, ça court pas les rues. Du coup, en fait, à Gaillac, dans le Tarn, là où il y a le Pinard, on avait un bar associatif qui s'appelait le Chinabule. Bon, depuis, il n'y a plus de Chinabule parce qu'on ne trouve plus de local. D'ailleurs, si quelqu'un connaît un local à Gaillac, on pourrait rouvrir le Chinabule. Bref, on a remis de l'eau pour avoir un robinet dans le bar. Et en fait, à la cave, je suis descendu aider le pote plombier. Et il y avait ce fameux chihuahua empaillé sur une étagère. Il était complètement pelé, il n'avait plus un poil. Et du coup, j'ai demandé, il avait l'air très très méchant, j'ai demandé à la propriétaire des lieux si elle pouvait me le donner. Et elle m'a dit oui, ça dépend, c'est pour quoi faire, tout ça. Ah oui, parce qu'en fait, les lieux appartenaient à un brocanteur avant, d'où la présence de ce chihuahua empaillé. Et donc, elle m'a dit oui, je veux bien, c'est une Suisse ultra riche, elle m'a dit oui, je veux bien te le donner, mais il faut vraiment que ça lui plaise. Et je lui ai dit, non, mais lui, il collectionne les chats séchés, donc oui, ça va lui faire très plaisir. Et voilà, donc elle me l'a offert. Et en fait, j'ai appris plus tard que le pote, il habitait chez une amie et le chihuahua, il est parti en putréfaction. Et du coup, pour le garder, il l'a mis dans le congélateur de sa pote. Donc j'imagine que dès qu'elle voulait aller choper un cornet de glace ou quoi, elle tombait nez à nez avec le chihuahua empaillé en putréfaction dans son congélateur.
T'as le look,
te colle à la peau.
Easy with